Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin, en ce 12 mars. Alors aujourd'hui, eh bien, nous serons entre hommes, principalement, étant donné que je suis accompagné de Richard de 16 et puis d'Arnaud à la technique. Bonjour Arnaud.
Bonjour cher Alexandre, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, on va essayer de brosser différents sujets hein, qui n'ont pas forcément beaucoup de liens les uns avec les autres, mais qui permettent de faire un bon tour de l'actualité. Tout d'abord, nous recevrons à 7h10 Marie-Lise Pellissier, porte-parole de la Marche de la Vie, qui nous parlera de l'euthanasie. Quelles seront les conséquences de manière très concrète pour les Français? C'est la question qu'on lui posera. Ensuite, à 7h25, nous parlerons de l'arrestation de 40 membres de la DZ Mafia. Est-ce que c'est un coup d'arrêt pour le narcotrafic? Ce sera avec Jean-Michel Verne, qui a écrit un livre à ce sujet. Et puis, à 8h20, nous recevrons Philippe Poirier, politologue, professeur de sciences politiques. Le RN est-il devenu un grand parti pour les municipales? Et puis également, nous recevrons à 8h57, à 9h05, pardon, comme tous les jeudis, Jean Messia, avec qui nous parlerons plus de l'Iran. Donc voilà, vous aurez un petit peu tout de l'actualité. Mais d'abord, pour nous mettre bien au courant, eh bien, voyons avec Richard de 16. Alors si on parlait d'Iran, Richard.
Assez insensible au discours rassurant de Donald Trump, les Iraniens ont décidé de miner le détroit d'Hormuz. Téhéran aurait déjà posé quelques dizaines de mines dans le détroit, sans compter les drones sous-marins. Selon le site Le Grand Continent, il faudrait environ 300 mines pour assurer un minage efficace du détroit, ce qui représente 5% de l'arsenal iranien disponible. L'expérience du minage des eaux ukrainiennes en février-mars 2022 suggère qu'il suffit de savoir qu'un certain nombre d'engins ont été déployés en mer pour que les assureurs et les armateurs de transport maritime se retirent immédiatement. Trump, lui, a affirmé que toutes les mines étaient détruites et les navires poseurs de mines avec, et bientôt les ports de ces navires et avec un peu de chance les Iraniens qui y vivent. Cela dit, l'Agence internationale de l'énergie a quand même annoncé hier qu'elle allait débloquer 400 millions de barils de pétrole des réserves stratégiques pour faire baisser les cours. 400 millions ne représentent que l'équivalent de 20 à 28 jours de la perte actuelle d'approvisionnement en provenance du Golfe. Et le déminage, au cas où Trump aurait oublié une mine ou deux, nécessitera des mois, voire des années, et donc au-delà des 30 jours de blocage du détroit. Il y a donc un risque écrasant de récession mondiale, selon l'agence Reuters. Une lueur d'espoir quand même. Emmanuel Macron affirmait hier qu'il ne savait pas s'il y a vraiment des mines dans le détroit, et chacun sait qu'il est au courant de tout.
Bon, merci, et puis l'union des droites ne passera pas par Gérard Larcher.
Non, Alexandre, l'admirable Gérard Larcher, 5 fois président du Sénat, a expliqué que les LR qui seraient tentés au municipal de soutenir les listes RN, UDR, Reconquête ou d'union des droites, ces LR-là n'auraient plus leur place au sein de LR. Je vois bien les tentations, mais en fait, cette tentation, c'est notre disparition et celle des valeurs que nous portons. Nous avons derrière l'élection présidentielle, nous devons rassembler du centre à la droite républicaine. Cette élection présidentielle que les LR sont à peu près assurés de perdre si on en croit les derniers sondages. Comme Gérard Larcher est malin, il plaide pour une primaire de la droite et du centre afin de désigner un candidat capable d'accéder au second tour. N'importe quel candidat, oui, même Gabriel Attal, qui porte visiblement les mêmes valeurs que celles de Gérard Larcher.
Si le vainqueur de cette primaire de la droite et du centre, c'était Gabriel Attal, par exemple, vous mettriez à son service pour la présidentielle?
Bien sûr, bien sûr,
bon. Donc Gérard Larcher, président du Sénat, figure de historique de la droite, serait prêt à faire campagne pour Gabriel Attal?
S'il est choisi à l'issue du processus de sélection, mais c'est la règle du jeu.
Voilà, c'était Gérard Larcher, l'homme qui aime jouer. Et voilà pourquoi les LR sont assurés de disparaître un jour à force de choisir de ne pas être à droite alors que leurs troupes ne rêvent que de cette union qu'ils détestent. Il est vrai qu'ils ne sont pas les seuls, mais eux ne sont en tête d'aucun sondage. Emmanuel Macron valide cette stratégie.
Et puis c'est à nouveau l'horreur dans les écoles parisiennes.
Ça devient banal, mais pas question de trouver ça aussi normal que des attentats islamiques à l'arme blanche. Un homme travaillant depuis le 15 décembre 2025 à l'école volontaire dans le 15e arrondissement de Paris et qui exerçait auparavant à l'école maternelle Saint-Dominique dans le 7e, fait l'objet d'au moins 3 plaintes pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Il avait été exclu de l'école maternelle à cause de son comportement violent avec les enfants, mais la nouvelle école n'avait pas été tenue au courant. La première plainte pour viol a été déposée le 1er février et l'homme a alors été suspendu par l'école. La justice, elle, animée par la sage lenteur qui a l'air d'être la règle en cas de pédophilie, n'a toujours pas placé l'homme en garde à vue, ni perquisitionné son domicile, ni son téléphone, ni son ordinateur. Pendant ce temps, les révélations se succèdent à un rythme inquiétant. À l'école Boulard, dans le 14e, les parents ont appris hier que 3 animateurs avaient été suspendus courant février, 2 d'entre eux étant soupçonnés de cris d'attouchement, le 3e étant accusé de viol. En 2025, 46 agents ont été ainsi suspendus dans une dizaine d'écoles, dont 20 pour des suspicions de faits à caractère sexuel. La mairie de Paris, qui s'excite beaucoup à l'approche des municipales, n'a rien fait jusqu'en 2025, alors que le tout premier signalement date de 2018 dans l'école maternelle Paul Dubois, 3e arrondissement. Les parents attendent d'ailleurs toujours une décision de justice 7 ans après. Emmanuel Macron n'a rien précisé, mais n'en pense pas moins.
Et alors, comme on parle de justice, que devient François Bayrou ?
Il est très concentré sur le local, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire sa réélection à Pau, qui sera peut-être plus difficile que prévu grâce au RN. Promis juré, Bayrou ne sera pas candidat à la présidentielle, même si, je cite, « il a tout à fait l'intention d'apporter son aide, son jugement et son soutien à la réponse que la France doit trouver ». Gabriel Attal a hâte qu'il lui apporte son soutien. Sinon, on sait depuis hier que François Bayrou sera jugé du 9 septembre au 5 octobre en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. Il avait été relaxé en février 2024 dans ce dossier, tandis que 10 autres membres du Modem avaient été condamnés à des peines de prison avec sursis et des peines d'inéligibilité avec sursis. On a hâte de comparer avec les peines prononcées contre le RN. Emmanuel Macron réserve pour le moment ses commentaires.
Et alors, quelle merveille apportez-vous de votre incursion dans le monde du sport ?
Alexandre, ne soyez pas déçu, mais le ministre des Sports iranien, Ahmad Donyamali, a expliqué hier que les conditions nécessaires à une participation de l'équipe nationale iranienne à la Coupe du Monde masculine de football du 11 au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique, au Canada, n'existent pas.
Bah oui. Dégoûté.
Soyez rassurés, à côté de ça, Karl Tabouret, le skieur de fond français, a décroché sa première médaille paralympique mercredi 11 mars aux Jeux de Milan-Cortina. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il n'était là aussi au courant de rien avant la victoire.
Décidément, ça fait beaucoup. Et alors, est-ce que Emmanuel Macron est au courant de la météo ?
Eh bien, quelques pluies concernent encore la Bretagne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation et le renforcement du vent dans les côtes du Manche, alors que le temps est plus doux et sec dans le sud et le sud-est. Côté température, nous aurons de 11 à 14 degrés sur la moitié nord du pays, de 10 à 18 sur la moitié sud, et ça pourra aller jusqu'à 18 degrés à Perpignan. Nous célébrons aujourd'hui Sainte-Justine, Sainte-Fina, Saint-Maximilien et Saint-Paul-de-Léon, évêque de Paris, qui a fui l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne à l'époque, pour se réfugier en France au 6e siècle, et en a profité pour devenir saint, comme n'importe quel Anglais.
Eh bien, il avait bien raison. Merci, Richard.
Ligne droite.
Mais vous restez, Richard, pour décrypter.
Oui, je reste pour décrypter, Alexandre. Et nous allons parler des conséquences de la guerre de l'Iran pour les Français. Un tiers des engrais azotés au niveau mondial transitent par le détroit d'Ormuz, un engrais dont les agriculteurs ont besoin pour cultiver les céréales. Mais la pénurie menace et les prix s'envolent. Pour l'urée, qui compte environ 40% d'azote, les prix sont aujourd'hui à plus de 700 euros la tonne et jusqu'à 1000 euros. Parfois le double du prix du mois de juin de l'année dernière. Le carburant aussi augmente, le prix des 1000 litres de GNR, le gazole non routier, a bondi ces derniers jours. Les coûts augmentent, pourquoi ? Parce que le gaz naturel, c'est 80% du coût de production des engrais azotés, explique un expert à l'AFP. Or, depuis vendredi dernier, le cours du gaz a grimpé de plus de 80%. Et en plus, avec les cargaisons bloquées, les quantités stockées se vendent beaucoup, beaucoup plus cher. On se souvient de la crise agricole et alimentaire déclenchée après la guerre en Ukraine ? Eh bien, nous allons vivre la même chose. Les coûts de production augmentent, les prix de vente, eux, ne bougent pas et ils sont bas depuis 2 ans. Moins d'engrais, moins de coûts, mais moins de rendement et donc moins de revenus. Autant d'engrais, plus de rendement, mais plus de coûts, donc moins de revenus. Les agriculteurs sont à la peine. La géopolitique, ce n'est pas simplement des conseils de défense à l'Élysée, ce sont aussi des agriculteurs, déjà fragilisés par le libre-échange, bridés par les normes et surveillés par les écologistes, qui voient leurs revenus s'effondrer. Éric Sier, directeur commercial de la coopérative du Lauragais, explique par exemple à France 3 « L'Égypte produit de l'urée 46, un engrais azoté. La production a cessé parce que pour cela il faut du gaz et l'Égypte travaille avec le gaz israélien. Mais les pipelines sont fermés à cause des attaques de drones. On a aujourd'hui en proportion 25 de disponibilité d'urée pour 1000 de besoin. C'est tendu. Mais tout cela, on ne pouvait pas le prévoir. C'est comme un jeu de poker. La nature, elle, est impassible. C'est bientôt le temps des semailles, engrais ou pas. Alors, faut-il semer des céréales qui demandent moins d'engrais ? Les producteurs de maïs ne savent pas. Que fera l'État pour les paysans français ? A-t-il réindustrialisé la France en rapatriant la production des engrais ? Non. On a décidé fin 2025 de construire une usine en 2027 qui commencera à produire de l'engrais en 2030. Est-ce qu'on va mettre en place un bouclier tarifaire et baisser les taxes sur les carburants ? Non. Roland Lescure, hier, le ministre, a toutefois appelé les automobilistes à faire jouer la concurrence et il n'a rien pas parlé des agriculteurs. Il a refusé pour l'heure d'annoncer des aides publiques ou de réduire les taxes, comme le propose notamment le Rassemblement National. Entre suivre une idée du RN ou laisser mourir les paysans, Roland Lescure a choisi la seule position républicaine valable, ne pas faire le jeu du RN. Alors, que faire? Eh bien, Serge Papin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, accompagné de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, est allé dans une station-service de Vélizy-Villacoublay le 9 mars pour regarder les prix à la pompe. Nul doute que leur photo réconfortera les agriculteurs.
Merci beaucoup, Richard Dossez.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir Marylis Pélissier. Marylis Pélissier, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors vous êtes porte-parole de la Marche pour la Vie et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'euthanasie. Simplement, d'habitude, on en parle un petit peu pour savoir comment avance le texte et puis où en est le parcours législatif, voire même ce que peuvent faire les auditeurs. Moi, ce que je voulais savoir aujourd'hui, c'est quelles peuvent être les conséquences concrètes en fait pour les Français si le texte en l'état actuel est adopté. Déjà, première question toute simple, qui aurait droit à l'euthanasie dans l'état actuel de la situation?
Alors, dans l'état actuel, donc selon les critères, si la loi est adoptée, vous avez donc 5 critères cumulatifs. Il faut être atteint d'une maladie grave et incurable, avec un certain pronostic vital, mais en fait à moyen terme, donc en fait c'est pas très précis,
ça veut dire quoi, moyen terme?
Ça veut rien dire. En fait, les médecins eux-mêmes le disent que c'est pas très précis. On peut programmer l'euthanasie à plus d'un an, enfin, à un an près. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a au moins encore un an à vivre. Et les médecins disent bien que, selon les critères, une maladie grave et incurable, eh bien, en fait, on peut encore vivre, pour certains, des années même. Donc, ça concernerait, aujourd'hui, on aurait, selon la SFAP, la Société Française des Soins Palliatifs, 1 million d'éligibles, à peu près, à l'euthanasie, si on regarde en France. Et puis, vous avez évidemment les critères de l'âge, être majeur, résider en France. Et donc, ça concerne à peu près toutes ces personnes-là, si on parle des patients. Puis après, évidemment, il y a toute la question de tous ceux qui vont participer.
Il y avait même la question, justement, d'ouvrir l'euthanasie aux étrangers. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas?
Ça n'a pas été adopté.
Okay.
Pareil pour les mineurs, ils ont proposé, il y a eu des amendements. Ce qu'on remarque, en fait, ce qu'on a vu un peu avec les débats législatifs, c'est qu'il y avait vraiment une radicalisation. Tout a été demandé, tout ce qui est déjà passé dans les autres pays, mais qui est passé après la première loi, ont été demandés en France, puisqu'ils se basaient sur les autres pays. Donc, par exemple, élargir aux étrangers, élargir aux souffrances psychologiques uniquement, et puis élargir aux mineurs, comme c'est le cas en Belgique, par exemple.
Et alors, on parlera un petit peu plus tard, effectivement, des exemples qui existent à l'étranger, mais... Concrètement, si la loi dans l'état actuel des choses est adoptée, comment ça se passerait une euthanasie justement?
Alors déjà, ça se passerait dans un cadre médical, donc dans un établissement de santé. Donc en fait, le premier changement qu'on va pouvoir voir, c'est le changement au niveau médical, au niveau des... tous les établissements de santé devront fournir cette offre de l'euthanasie. Donc au niveau des médecins, il va y avoir forcément un choix de se dire est-ce que je vais la pratiquer ou non. Les établissements, eux, n'auront pas le choix. Je tiens à préciser qu'on ne parle pas assez aussi de tous ceux qui sont dans l'administration hospitalière, qui ne sont pas forcément soignants et qui n'ont pas d'objection de conscience.
Oui.
Donc, ils devront cautionner le fait que dans leur établissement, il y aura cette pratique. Donc, les établissements de santé, ce n'est pas seulement les hôpitaux. Il y a les questions d'EHPAD aussi, toutes les personnes, enfin tous les lieux où en fait on prend soin de certains patients. Donc il va falloir le mettre en place, former des soignants pour pratiquer cet acte, et puis forcément tout le bouleversement qu'il va y avoir avec certains soignants qui disent déjà qu'ils démissionneront peut-être si cette loi est votée.
Oui, on avait reçu il y a quelques semaines effectivement des sœurs qui tenait un établissement de soins catholiques et qui expliquait justement que si le texte de loi sur l'euthanasie passait, elle refuserait finalement de cautionner ça. En fait, elle pourrait pas l'accepter et donc que pour potentiellement leur établissement pourrait fermer. Mais alors, donc en plus du texte actuel au sens strict, bon qui est déjà assez large comme vous l'avez décrit, vous alertez aussi beaucoup à la Marche pour la Vie sur les dérives. Possible. Et alors là, les dérives, on en voit dans plein de pays autour. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu comme justement comme exemple qui entre guillemets qui font peur dans les endroits où l'euthanasie a été adoptée? Je crois que ça existe au Québec, en Belgique, aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ces autres pays?
Alors Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas énormément de pays qui ont légalisé l'euthanasie. Mmh. Dans les pays de l'ONU, on a 5% uniquement qui ont légalisé l'euthanasie. Et puis, sur ce qui est de l'Union européenne, on a 7 pays qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté, ou les deux. Mmh. Donc, ça, c'est un petit point pour dire que la France n'est pas en retard, contrairement à ce qu'on nous fait croire.
Même plutôt en avance, oui.
Plutôt, on est pour l'instant sur la bonne... Enfin, si on ne légalise pas, on a gardé le soin des plus vulnérables. Je pense que la première chose qu'on peut noter, alors évidemment il y a la dérive des les critères qui s'élargissent. Je parlais des mineurs en Belgique par exemple. Il y a aussi l'euthanasie des nouveau-nés qui existe. Donc ah, par exemple au Canada et au Québec, il y a des protocoles qui existent pour que l'euthanasie des nouveau-nés soit pratiquée, c'est-à-dire que si le bébé est dans une maladie, dans un cas incurable. Il y a tout un protocole pour pouvoir euthanasier l'enfant. Donc oui, mais, ça existe.
Donc ça veut dire que, même, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, il n'y a évidemment aucun consentement du nouveau-né. Donc non. Ça veut dire que les parents
décident... Ce sont les parents qui, avec les médecins.
C'est plus ou moins de l'infanticide.
Bah, c'est un infanticide en soi, des nouveau-nés. Il y a l'IEB qui a publié justement quelque chose sur ça. Et il y a des médecins qui le pratiquent au Canada et puis dans quelques pays. C'est assez rare, mais quand même. Donc vous avez cette question des mineurs. En France, hein, déjà dans la loi, vous avez toutes les personnes qui sont sous tutelle qui pourront demander l'euthanasie. Donc on se demande aussi sur la question du consentement, par exemple des personnes en déficience intellectuelle, oui. Etc.
Ce qui arrive en plus assez régulièrement chez les personnes âgées qui peuvent être frappées de démence ou d'Alzheimer, oui. ou d'autres. Ça veut dire que la personne qui les a en tutelle peut décider de les euthanasier.
Bah oui, peut c'est toujours le patient qui choisit. Mais en fait, la question c'est plutôt que justement la personne sous tutelle n'aura pas vraiment son mot à dire. Elle peut participer, elle donne son avis, mais c'est pas elle qui décidera. Mmh. Mais c'est la personne malade, enfin le patient qui choisit. Sauf qu'on peut juste s'interroger sur le fait que par exemple, parfois ils peuvent pas signer de contrat, mais ils peuvent signer un contrat d'euthanasie pour se donner la mort.
Oui.
Donc on se demande vraiment sur le consentement libre et éclairé, même si c'est le cas pour tout le monde. Donc voilà, il y a cette question le critère de l'âge qui évolue. Il y a la question évidemment de la santé mentale. Au Canada, en 2027, sera autorisée l'euthanasie pour les personnes qui ont une maladie mentale uniquement. Et puis sinon, on peut regarder ne serait-ce qu'au niveau du nombre de personnes, parce qu'on nous fait toujours croire que c'est pour...
C'est marginal. Voilà, c'est que pour marginal. C'est...
Bon, alors, si on regarde, en Belgique, l'euthanasie a été légalisée en 2002. Il y a depuis 2002, eu 33 000 personnes à peu près euthanasiées. Au Canada, ça a été autorisé en 2016 et on a 100 000 personnes, ce qui revient à peu près à la population d'Orléans, par exemple. Et aux Pays-Bas, pareil, 100 000 personnes. Donc si on regarde par rapport à ces chiffres et par rapport à la population française, et en plus, si on prend en compte le vieillissement de la population en France, eh bien nous serons à peu près à 50-60 000 personnes euthanasiées par an en France.
Donc, d'accord, donc voilà. Ce qui représente à peu près 10% des
alors j'ai pas le pourcentage exact.
Des décès, il me semble, oui, ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Et alors, justement, sur cette question de la souffrance psychologique quand même, est-ce qu'il y a des critères défini ou est-ce que c'est quelque chose, même la souffrance en général, est-ce que c'est quelque chose de relatif ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer de manière objective ?
On ne peut pas mesurer la souffrance, même la souffrance physique, il y a une part de subjectivité et d'ailleurs même dans le texte de loi, ils disent une souffrance que la personne juge insupportable. Donc on reconnaît que c'est la personne qui va le juger, les médecins le savent. En plus, on sait qu'il y a certaines personnes qui ressentent plus ou moins la douleur. Enfin, c'est quand même assez subjectif. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, en Suisse ou en Belgique aussi. En fait, on a vraiment une dérive sur cette interprétation-là. Parce que ce qu'on voit, bien sûr, c'est qu'il y a la loi, il y a les critères et puis il y a l'interprétation. L'interprétation faite par les médecins, notamment, et puis aussi par les désirs des patients. Et donc, on voit que dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, en fait, ce critère de la souffrance est de plus en plus élargi. On a aussi le phénomène des euthanasies à deux, par exemple, où c'est le cas des couples ou des jumeaux, des frères et sœurs, qui ont peur de se retrouver tout seuls après la mort d'un des conjoints et donc ils vont demander à être euthanasiés en même temps. Voilà, c'est ce qu'on remarque dans plusieurs pays aussi. Donc, en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a la question de la solitude. On voit un gros pourcentage, 57% des personnes qui se sont suicidées, qui ont utilisé le suicide assisté en Oregon, 57% étaient en état de mort sociale, enfin considéraient que c'était l'isolement qui les avait aussi poussés à demander l'euthanasie. Donc on a tous ces critères-là, et puis bien sûr il y a la question de la marchandisation de la vie, et ça c'est même pas une dérive en fait,
c'est une question qui est un peu morbide forcément, mais qu'on se pose. Est-ce qu'on voit des conséquences économiques finalement à l'euthanasie? Est-ce qu'on peut chiffrer les bénéfices de l'euthanasie?
Alors en France ça n'a pas encore été fait, au Canada ça a été fait. C'est le Canada assume totalement cette dimension économique. Ils se disent que voilà, on fait des économies en utilisant le suicide assisté, et ils ont demandé un rapport au Parlement, et ce rapport a montré qu'ils faisaient une économie de 150 millions de dollars canadiens, ce qui revient à peu près, j'ai fait mes recherches, à 95 millions d'euros en France.
D'accord.
Donc, ce qui revient quand même à une certaine somme. Et en Belgique, ça m'a frappé, en Belgique, les assureurs passent dans les EHPAD pour proposer aux personnes âgées l'euthanasie. L'euthanasie en l'occurrence en Belgique. Donc il y a vraiment une pression sociale, économique revendiquée. Et en France, ne croyons pas que nous serons exempts de ça, puisque en France, vous avez une mutuelle notamment qui a proposé des amendements en faveur de l'aide à mourir aux députés, et qui a envoyé même des mails à ses abonnés pour dire qu'il fallait promouvoir le suicide.
Oui, ce qui est vraiment une manière de dire que bonjour, ça nous fera des économies. Donc c'est assez morbide. Effectivement, il y a cette question de la marchandisation, mais est-ce que d'une certaine façon, alors là je rentre dans une considération un petit peu moins concrète, mais est-ce que justement l'individualisme de la société va pas faire que justement les gens vont se sentir moins redevables vis-à-vis de cette société? On voit par exemple le lien entre les boomers et les jeunes générations qui est désormais très éloigné. Dans le fond, est-ce que cette pression sociale, elle existe vraiment, ou au contraire, c'est plus par souffrance individuelle, que, comme dans l'Oregon par exemple, vous l'avez décrit, qu'on s'euthanasie?
Alors, sur la question individuelle, en fait, justement, je lisais une note de synthèse, c'est le Cercle Vulnérabilité et Société, donc qui est spécialiste sur les questions de vulnérabilité, et qui a fait toute une note en expliquant qu'on croyait trop que cette question de l'euthanasie ne concernait que les malades et les médecins. Et en fait, dans toute sa note, la synthèse, c'est qu'elle dit, en fait, il faut montrer qu'on est tous impliqués, et notamment, ça implique toutes les personnes vulnérables qui ne sont pas encore forcément éligibles, mais qui se disent, quand même, en fait, pourquoi moi, j'y aurais pas droit, ou alors qui se sentent un peu poussés vers l'euthanasie. Ça implique les proches, évidemment, et en fait, on est facilement proche d'une personne dans ce cas-là. Et puis, ça implique l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi du secteur social et médico-social, pardon. Donc ça implique vraiment finalement beaucoup de monde. Et puis vous parlez un petit peu de la question de la rupture sociale, et je pense que c'est très important de voir que notamment dans la loi actuelle en France, une euthanasie sera notée mort naturelle.
Oui.
Et à partir de là, la famille ne sera pas forcément au courant si la personne a été euthanasiée ou pas. C'est le patient qui décide en fait d'informer sa famille. Le médecin n'a pas du tout le devoir de le faire. Et donc, forcément, en fait, moi, je me dis, quand on va voir notre proche partir à l'hôpital qui a une maladie grave incurable, ou notre grand-parent, etc., on va pouvoir s'inquiéter de se dire, en fait, comment
même,
il va
finir. Il y aura toujours un soupçon, finalement.
Est-ce qu'on peut faire confiance à la médecine? Est-ce que à sa demande aussi, à sa fluctuant, enfin son côté très fluctuant. On parlait des autres pays, il y a le Québec, simplement il y a un article qui est paru dans le Figaro, Louis-André Richard, qui a participé à la légalisation de l'euthanasie au Québec, enfin du suicide assisté, a dit « L'aide à mourir est entrée dans notre langage commun comme une façon socialement digne de quitter ce monde. »
Oui.
Et c'est ce qui
risque de... Et finalement, c'est ça. Et puis, on pourrait arriver à une banalisation, voire une apologie du suicide en général. Dernière question, en 30 secondes, Marie-Lise Pélissier. Il y a aussi une loi quand même sur les soins palliatifs qui est en discussion. Elle, qu'est-ce qu'elle va apporter très rapidement?
Bah, concrètement, elle va donner plus de moyens et puis elle va aussi créer des maisons d'accompagnement pour les personnes âgées. Donc plus de moyens aux soignants et aux soins palliatifs en général. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça va vraiment aboutir parce qu'il y a un plan décennal qui a été voté en 2024 et on a vu trois ans après que les résultats n'étaient pas encore là. Donc il y a un vrai effort sur le long terme à faire. Si l'euthanasie est votée, est-ce qu'on va faire vraiment cet effort ? Telle est la question.
Merci beaucoup Marie-Lise Pellissier d'être venue parler de ces sujets certes peu joyeux mais importants néanmoins pour les Français, de d'avoir expliqué à nos auditeurs très concrètement comment ça se passait. Et bien écoutez, on espère vous recevoir prochainement pour justement peut-être avec de meilleures nouvelles, espérons-le.
Et puis
merci beaucoup.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Il est 7h25. À 7h50, ce sera la chronique d'Arthur de Vatrigan. Et puis ensuite, à 8h20, nous recevrons, je le rappelle, Philippe Poirier qui nous parlera des municipales et du RN. Mais tout de suite, parlons de la DC de Mafia avec Jean-Michel Verne.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Verne. Jean-Michel Verne, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des affaires criminelles, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, et notamment de Inside DZ Mafia, au cœur du gang narco-mafieux, qui est paru il y a quelques mois aux éditions Artaud. Alors, si on a décidé de vous inviter, Jean-Michel Verne, c'est d'abord parce que 42 membres de la DZ Mafia ont été interpellés ce lundi, on l'apprenait hier je crois, ou avant-hier. D'abord, est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs, de manière très concrète, ce qu'est la DZ Mafia ?
Alors la DZ Mafia, c'est une organisation criminelle qui est apparue à Marseille au début de 2023. Et cette organisation s'est singularisée par la mise en ligne d'une vidéo sur laquelle, pour la première fois, on voit apparaître le sigle DZ Mafia, une vidéo assez horrible, hein, donc d'un jeune Ryan qui est assassiné et dont le corps est en train de brûler dans une voiture. Donc la scène est filmée par le tueur présumé qui s'appelle Matteo, et qui a tué à peu près une dizaine de personnes, on va dire, en quelques jours. Et on découvre là des nouvelles méthodes et une nouvelle façon, je dirais, de faire du crime. Et ça a beaucoup bouleversé, on va dire, la conception qu'ont les policiers du grand banditisme. C'est une révolution, la DZ Mafia, c'est-à-dire que on va aller recruter des jeunes tueurs sur les réseaux sociaux en leur promettant quelques milliers d'euros qu'ils ne recevront jamais pour la plupart, et on leur dit d'aller tuer une cible, on leur présente une photo, on leur donne une adresse, on lui dit voilà, tu vas à tel endroit, là il y a une voiture, tu rentres dans la voiture, tu ouvres la boîte à gants, là il y a une arme, et avec cette arme tu vas aller remplir ton contrat. Et on est dans une sorte de jeu vidéo qui n'en est pas un. Hein. C'est une forme de passage du fantasme à la réalité. Et là-dessus, les policiers ont été pas pris de court parce qu'ils avaient dessiné depuis des années. On va dire l'arrivée de la DZ Mafia, entre guillemets, en observant ce qui se passait dans les cités. Mais ils ont été dépassés par l'ampleur du phénomène.
Et alors, question toute simple, mais DZ, c'est une référence donc à l'Algérie, ce terme. Est-ce que c'est une mafia qui est tenue uniquement par des Algériens ? Est-ce que c'est une mafia ethnique ? Comment ça fonctionne sur ce niveau-là ?
Alors, c'est là où il faut toujours se garder de simplification à Marseille, c'est que vous avez une équipe comme la DZ Mafia, où vous pouvez trouver, d'ailleurs dans la liste, à un moment il y avait une liste de 25 noms qui circulaient dans un dossier, et j'étais très étonné de voir beaucoup de noms de consonance européenne. Mmh. ça n'a rien à voir avec des Algériens. Ceci étant, le noyau dur, effectivement, est constitué, ou au moins trois des éléments du noyau dur sont identifiés comme étant algériens, d'origine algérienne. Mais on peut avoir, par exemple, comme l'ADZ s'est opposé au clan Yoda, dans cette année 2023 terrible où il y a eu plus de 50 morts, le clan Yoda, c'est ce qu'on appelle les Comoriens.
Oui.
C'est la communauté comorienne est très importante à Marseille, autour de 100 000 personnes peut-être. Et on trouve, là aussi, on peut trouver, entre guillemets, un arabe chez les Comoriens et un Comorien chez les Arabes. Vous voyez,
Donc c'est pas strictement ethnique. C'est plutôt il y a des porosités, il y a des dominantes, on va dire, mais aussi des porosités.
Voilà. C'est pas comparable, si vous voulez, à la macromafia. La macromafia qui sévit en Belgique, en Hollande, constituée uniquement de Marocains base.
On reviendra
avec originaire des montagnes du Rif, avec si vous voulez des règles d'omerta très précises. Semblable à celle qu'on peut trouver en Calabre, par exemple, avec la Ndrangheta. Non, là, c'est quand même une structure plus souple, on va dire.
Et alors, bon, restons donc sur la macromafia, étant donné que vous en parlez. La macromafia, c'est quand même une organisation qui est extrêmement puissante, il faut le dire, en Belgique et aux Pays-Bas, qui est très présente notamment dans les ports de Rotterdam, dans le port d'Anvers, par où transite énormément donc de drogue en provenance d'Amérique du Sud. Est-ce que la macromafia est comparable en puissance avec la DZ Mafia? On sait que la macromafia aussi allait jusqu'à menacer la famille royale des Pays-Bas durant il y a quelques années. Est-ce que c'est des mafias d'une même dimension?
Il y a quelques mois. Hein.
Il y a quelques mois même, je crois aussi qu'il y a un journaliste qui avait été tué.
Oui, Peter. Comment il s'appelait? Peter de Vries.
Voilà. Et alors, est-ce que ce sont des organisations qui sont comparables, la macromafia et la DZ Mafia, en termes de puissance, en termes d'influence, en termes d'implantation? Est-ce qu'on parle du même niveau?
Je ne pense pas qu'on soit au même niveau, mais la DZ Mafia est, disons, une organisation qui pourrait atteindre le même niveau, si jamais on n'endiguait pas le phénomène. Donc, on comprend mieux pourquoi on a cette opération d'envergure qui s'est produite il y a quelques jours. Pour la première fois, on a un vrai blitz, comme disent les Italiens, pour expliquer ces coups de filet très spectaculaires menés par les gendarmes dans différents points, en Bouches-du-Rhône, dans le Var, dans le Vaucluse. On va taper large, on va montrer les muscles et aussi, on va dire, inquiéter ces gens qui, jusque-là, se sentaient d'une certaine façon intouchables, puisqu'ils étaient capables d'officier depuis leur prison.
Oui.
Les données ont changé avec la mise en place par Gérald Darmanin de ces super prisons où là, ils ont été coupés de leurs contacts, sauf par le biais des avocats. Et là, justement, c'est très intéressant parce que affaire annexe, on voit apparaître un avocat qui est sur la sellette.
Oui, ce que j'allais dire, c'est que sur ce point précis, c'est la prison de Vendin-le-Vieil, voilà, prison de haute sécurité. Un avocat aurait donc aidé son client, membre de la DZ Mafia, dans une tentative d'évasion. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information à ce sujet?
Alors, parler de tentative d'évasion, c'est sans doute très excessif.
D'accord.
On est sur un projet potentiel de tentative d'évasion, ce qui est assez nébuleux. Mais le fait est que cet avocat a servi de relais pour sortir des clous. On a l'exemple, et ça c'est une constante dans, je dirais, une nouvelle génération d'avocats pénalistes, porte plus les valises, je dirais, que ne remplit ses missions de défense. Et donc, ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Et on a eu récemment un avocat, lui aussi, donc, qui est condamné, qui a été condamné pour avoir quelque peu transmis un certain nombre d'informations à ses clients qu'il ne devait pas avoir. Voilà. On passe d'un dossier à l'autre. On a eu aussi un ancien bâtonnier à Aix qui a été mis en cause il y a quelques années, il y a un ou deux ans de mémoire. Et donc, voilà, tout ça crée un climat assez lourd autour des avocats et ça n'honore pas la profession. C'est moins qu'on puisse dire.
Alors, on parlera un petit peu plus tard de, on va dire, de l'implantation de la mafia dans les institutions ou même de manière générale dans la vie des habitants du sud-est de la France. Simplement, revenons sur l'opération dont on parlait à l'origine. Je rappelle, 42 membres de cette mafia qui ont été interpellés. Quels sont, selon les informations que vous avez, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Là, ce qui s'est passé, c'est que au départ, on a une écoute. Autour d'un des membres de la DZ Mafia qui s'appelle Madi Zerdoum, qui se trouve en détention. Il n'était pas encore mis dans la prison de haute sécurité. Il était dans une prison normale, entre guillemets. Et là, à partir de cette écoute, on comprend que ce trame un certain nombre de choses, et on commence à tisser une arborescence dans laquelle on voit apparaître un certain nombre de personnes liées à la DZ Mafia, et c'est toute une nébuleuse dans laquelle on trouve à la fois ceux qui vont aider à la logistique pour des règlements de compte, pour des trafics de cocaïne ou de résine de cannabis, ou des gens qui sont... sollicités pour faire du racket. On a comme ça toute une série de ou du blanchiment. Donc voilà, on est en train de dessiner, je dirais, une structure grâce, enfin au départ, à cette écoute transmise par les offices au FAST et au CLO.
Et alors, finalement, dans les 42 personnes interpellées, est-ce que parmi eux, il y a des personnes particulièrement importantes? Est-ce qu'on a touché au cœur de la DZ Mafia? Et même, dans le fond, aux autres questions subsidiaires, est-ce qu'on a des informations sur à peu près le nombre de personnes qui font partie de la DZ Mafia? Parce que effectivement, si on a capturé 42 personnes sur 100, c'est très important. Si c'est 42 sur 1000, ça l'est beaucoup moins.
Oui, c'est là toute la question. C'est pas comme c'est une organisation, si vous voulez, protéiforme, qui se développe au fil des contacts sur les réseaux sociaux, c'est très difficile d'évaluer les troupes. On peut potentiellement, si on n'arrête pas, si on ne jugule pas le phénomène, avoir 1000, 2000, 3000 personnes qui travaillent pour la DZ.
Pardon, après, il y a des gens qui se revendiquent. Si je comprends bien, Jean-Michel Verne, pardon, mais c'est un peu une forme d'uberisation, si vous me permettez le mot, d'uberisation du trafic de drogue.
Totalement. Totalement, on est passé au crime 2.0, quoi. Et donc, c'est là où c'est là toute la difficulté pour les forces de police, pour les policiers qui doivent s'adapter, et pour la justice, qui soit s'adapter à l'utilisation néfaste de réseaux sociaux particulièrement efficaces, notamment des messageries comme Snapchat, comme WhatsApp, comme Instagram. Et ça, Damien Martinelli, qui est procureur de Nice, s'en inquiète dans Inside DZ Mafia. Il dit qu'en la matière, on a pris énormément de retard et qu'il faut absolument se remettre à niveau pour être au niveau, justement, des criminels.
Alors, justement, une question que se posent les auditeurs, c'est est-ce que vous avez le sentiment, notamment peut-être après cette opération, que la menace de la DZ Mafia est enfin prise au sérieux?
Alors, vous savez, oui, ça c'est sûr que la menace de la DZ Mafia est prise au sérieux, d'autant qu'en juillet dernier, vous avez ce fameux rapport de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, qui pose tout sur la table et qui dit la DZ est une menace majeure pour la France. Parce que, donc, partie de Marseille, elle commence à croître et à s'installer durablement dans le Vaucluse, puis il y a le Gard. Souvenez-vous de ce qui s'est passé l'été dernier, où il y a un message qui est diffusé sur les réseaux sociaux, on leur dit « attention, si vous sortez dans la rue, on va tuer vos enfants ». Un message à l'attention de la population. où on voit très bien que c'est une organisation mafieuse qui veut prendre en main un territoire. Et ça, c'est très effrayant. Et donc, après, on a vu monter des aides sur Valence, voire désormais sur Clermont-Ferrand, hein, puisque un des membres recrutés comme ça sur les réseaux sociaux a été interpellé à Marseille alors qu'il était impliqué dans un assassinat à Clermont. Donc, on est dans une organisation qui se développe, qui a des connexions partout, notamment avec nos amis de la Mocromafia, qui remontent jusqu'en Belgique. Donc, on est dans une structure qui était en plein développement. Aujourd'hui, avec la mise à l'ombre de ses membres, dont trois ont été extraits de cellules dans cette opération, c'est le triumvirat le plus opérationnel de la DZ qui est ciblé. Mmh. Hein, il y a Mamine, il y a Gabi, il y a la Brute. Le bon, la Brute et le truand. Et on touche au cœur là, des Z. Est-ce que, alors, ce qu'il va falloir observer, c'est ce qui va réellement se passer par la suite au niveau judiciaire. Est-ce que les soupçons, est-ce que les éléments qui sont recueillis par les gendarmes sur commission rogatoire des deux magistrats de la GIRS qui sont sur cette opération vont être suffisants pour mener à des condamnations de ces gens-là? C'est toute la question. Le droit français qui évolue n'est pas, peut-être pas encore totalement adapté à ce type de grande criminalité.
Même, vous parliez des avocats tout à l'heure, de certains avocats véreux. On parle même aujourd'hui, je voyais cet article du Monde qui a été publié ce matin, mais que la justice marseillaise elle-même serait opposée au risque de corruption par la DZ Mafia. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut même étendre à l'administration pénitentiaire. La prison des Baumettes, dans laquelle ont été incarcérés plusieurs membres de la DZ Mafia, a vu plusieurs... a été infiltrée finalement, aurait été infiltrée par justement des membres de ces organisations. Concrètement, quel est le poids dans les institutions de la DZ Mafia? Est-ce que justement la DZ Mafia serait capable de corrompre un juge en France?
Je pense qu'elle est plus que capable, je pense qu'elle l'a déjà fait. Ah. Pour moi, c'est assez clair. On a vu qu'il y a des greffiers qui sont mis en cause. L'institution judiciaire est fragilisée par ce qui se passe. Et c'est toujours dans le rapport de l'OFAST paru l'été dernier, on parle de narco-corruption. Ça veut dire qu'ils ont des moyens financiers immenses. La même section de recherche de Marseille qui mène ces 42 interpellations a été sollicitée sur un dossier de blanchiment il y a quelques mois. Dossier de blanchiment dont 70% des revenus provenaient des cités des quartiers nord de Marseille contrôlés par la DZ Mafia. On estimait qu'en 10 mois, on a 30 millions d'euros qui ont été blanchis. Voilà, vous avez donc c'est des passeurs, des Syriens, des Maghrébins qui passaient la frontière italienne, qui allaient à Milan dans une fonderie. Le cash était transformé en lingots d'or, partait au Kosovo et en Turquie. Voilà, donc c'est face, vous voyez, les forces en présence. Donc, vous imaginez que que ces sommes peuvent permettre de corrompre n'importe qui. Mmh. Et pas forcément, comme me confie un policier, pas forcément que la base. On peut monter très haut, très très haut, même vers la très haute fonction publique. Il y a une autre organisation criminelle qui est particulièrement prégnante ces derniers temps sur notre territoire, c'est la mafia corse. Dans le dossier du Petit Bar, qui a été jugé il y a quelques mois au procès auquel je me suis rendu, dans le dossier, on a une écoute du chef du Petit Bar, qui s'appelle Jacques Santoni. Qui pour l'anecdote est paraplégique et qu'on n'arrive toujours pas à juger ni à incarcérer en raison de son état de santé. Et donc ce dernier, dans une écoute, dit « j'ai donné 30 000 au juge ». J'ai donné 30 000 rues. Voilà. Vous comprenez? Donc, rien n'a été inventé. La corruption, elle existe depuis longtemps. Et elle touche malheureusement au cœur de la magistrature, ça c'est évident.
Parce que pour le coup, c'est vrai que ce sont des, pardon, des histoires qu'on connaissait surtout, bah, évidemment, dans la mafia italienne, avec ces simili procès qui n'avaient aucune conséquence et qui étaient finalement de vastes mascarades. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui était tout à fait étranger à la France, excepté donc cette mafia corse, jusqu'à présent quand même, on avait l'impression d'y avoir échappé, contrairement à certains de nos voisins.
Oui, enfin, vous savez, en 93, vous aviez une commission parlementaire qui s'est beaucoup intéressée à l'infiltration des mafias italiennes en France. Hein. Alors, la sonnette d'alarme, elle a été tirée depuis un moment. Après, on sait, mais on ne veut pas voir, parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on est un pays marqué par l'emprise des mafias. Mais je veux dire, c'est l'auberge espagnole, la France, aujourd'hui, hein, pour les mafias. Hein. Il y a les Russes, il y a les Vorizzacones, les voleurs dans la loi, vous avez les mafias corses, les Italiens, ils sont... Je veux dire, ils sont chez eux dans le midi de la France. Ils se sont installés, ils en font une base arrière. C'est un livre que j'avais écrit il y a quelques années qui s'appelait Riviera Nostra. J'avais expliqué comment justement la mafia italienne s'était implantée chez nous. Et aujourd'hui, les connexions existent entre tous ces gens-là. Il y a une internationale du crime.
C'est la question
intéressante parce qu'on retrouve voilà des connexions entre les Calabrais, les Corses.
C'est la question que j'allais vous poser, Jean-Michel Vernes. C'est-à-dire qu'on a entendu beaucoup parler ces derniers mois, ces dernières années en France de règlement de compte entre les mafias. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure du gang Gioda. On a entendu parler de la guerre de territoire qui avait lieu entre la DZ Mafia et ce clan Gioda. On sait qu'il y en a eu d'autres des affaires dans ce genre. Est-ce que on assiste plus, comme vous le dites, à une forme d'international du crime qui coopère à travers les continents? On sait que, par exemple, la Mocromafia coopère avec les cartels mexicains. Est-ce qu'on assiste plus à une internationale du crime? Ou alors, justement, est-ce que on risque de voir s'accroître les combats entre presque territoriaux, entre toutes ces bandes rivales, toutes ces mafias rivales?
Et je pense que les deux phénomènes ne sont pas incompatibles. On peut avoir des guerres de territoire local qui opposent une équipe par rapport à une autre. Ça existera toujours. Il y a toujours un qui aura plus d'appétit que l'autre. Et en même temps, une collaboration au niveau international entre différentes organisations. La CAM qui est consommée en France, elle vient pas de Norvège. Elle n'est pas produite en Norvège, elle est produite en Colombie, au Pérou, les quantités sont astronomiques, je crois que la Colombie produit 2400 tonnes par an de cocaïne, c'est énorme.
Oui.
Et toute cette cocaïne va arroser les États-Unis, évidemment, hein, avec les cartels mexicains, depuis l'affaire El Mencho récente, hein, où on voit la puissance de ces cartels qui sont capables de défier un État, de mettre le feu à des bus, à des stations-service, à déclencher un état de guerre pour impressionner, pour dire on est là. Ils sont presque ils sont à égalité avec l'État. Si on suit cette route, on va arriver à Anvers, Rotterdam, on va arriver sur l'Afrique de l'Ouest aussi, via la Martinique. La Martinique est devenue territoire français, est devenue un lieu de passage très important pour le trafic de cam. Et vous avez des bateaux qui partent de Martinique et qui arrivent sur l'Afrique de l'Ouest, où des transferts se font sur des GoFast, des dizaines de GoFast qui attendent la cam pour la faire remonter vers l'Espagne et le Portugal. Vous voyez, ça vient de partout. Donc on est submergé. C'est Bruno Retailleau parlait de tsunami blanc. Et je crois que cette expression est tout à fait juste. Et alors, on a aujourd'hui une autre inconnue, c'est le développement des drogues de synthèse. Ce qu'on a vu récemment, il y a quelques mois, le démantèlement d'un labo de méthamphétamine dans le Var. Donc, la drogue d'ailleurs n'était pas destinée principalement au marché français, mais partait vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
Ah oui.
Donc, on est au carrefour. C'est très important de constater aussi que la France est un point stratégique dans le trafic de drogue en raison de ses très nombreuses côtes, de son domaine maritime très étendu. Et compte tenu des mesures qui sont prises par la Belgique et la Hollande justement pour juguler les rentrées à Anvers et Rotterdam, on se déplace maintenant vers les ports français. Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Jean-Michel Verne, on va revenir sur le cas français, mais dans 10 minutes, parce que vous restez avec nous, mais tout de suite, entre-temps, eh bien, nous allons avoir la chronique d'Arthur de Vatrigan.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous recevons donc Arthur de Vatrigan, directeur de rédaction de L'Incorrect, pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour Arthur, alors de quoi nous parlez-vous ce matin ?
Eh bien, je vais vous parler de Michel Houellebecq.
Ah !
Histoire d'avoir donné un peu de bonne humeur dans cette matinée où le soleil commence à frotter son nez. Bon, on le sait, la France est un vieux pays. La question, c'est ce qu'on va mourir. Nous avons bien souvent regretté d'être nés dans un pays trop vieux, une époque tardive, murmure Michel Houellebecq dans son nouvel album Au crépusculaire doux et racé. Alors, est-ce la fin ? Bah, étonnamment, le poète n'a jamais paru aussi serein. Il faut que la mort vienne, la mort douce et profonde. Bientôt, les êtres humains s'enfuiront hors du monde. Nous console-t-il par dans une musique de Frédéric Lowe qui rappelle lorsque la mélancolie danse avec l'élégance, on peut tutoyer le sublime. Mais pourtant, ce qui est assez étonnant, c'est que le poète se bat. La mort est imminente, nous dit-il, mais il continue. Je vous rappelle qu'il était encore en première ligne il y a quelques semaines lorsque nos parlementaires abattaient une à une les digues pour légaliser l'euthanasie, pour créer cette nouvelle catégorie humaine appelée les éligibles, c'est-à-dire ceux qui ne méritent plus de vivre. Bah, lui, il se tenait debout pour rappeler que l'âme de notre civilisation repose sur notre attachement non négociable à la dignité de l'homme. Alors peut-être que notre civilisation n'a plus envie de vivre. Mais revenons à l'album de Michel Houellebecq, parce qu'en effet, c'est un album de musique, un album de chansons, même s'il ne chante pas, qui s'appelle « Souvenez-vous de l'homme » autour de ses derniers poèmes publiés chez Flammarion il y a quelques jours. Alors, rappelez-vous, en 2000, tout juste auréolé du succès fulgurant et international des particules élémentaires, Houellebecq collaborait avec Bertrand Burgala pour mettre déjà ses poèmes en musique et s'offrait même, à la Houellebecq, une tournée sur les plages françaises. Alors, un an avant l'attentat des Tours Jumelles, l'écrivain ironisait cruellement sur la destinée de l'homme occidental, offrant encore son corps au soleil de l'utopie consumériste. Et la musique de Burgala, rétro, psyché, rock, parfois entraînante, confère à l'ensemble un arrière-plan un peu scintillant, dérisoire, comme une boule à facettes sous un ciel sans dieu. Et Houellebecq, donc, faisait la tournée des plages, avec, on voyait des gens qui étaient sur des serviettes, sur des transats, et lui, sur une petite scène, avec le groupe de Burgala en arrière-fond, récitait ses poèmes où il annonçait déjà ce qui allait se passer un an plus tard. Et l'entreprise s'avérait un projet convaincant, et non pas par le simple caprice décalé d'une diva des lettres, parce que d'abord, Houellebecq, avant de publier quoi que ce soit, il avait débuté son œuvre par des poésies, et il déclamait d'ailleurs ses poèmes au public. Ensuite, il a toujours hybridé culture, pop, science, littérature, et donc cette nouvelle formule produisait également des réactions souvent très intéressantes. Et depuis le XXIe siècle, achevé le premier quart de sa course, et nombreuses prophéties pessimistes du mage Houellebecq, comme le qualifiait Luz dans une couverture de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, se sont réalisées plus rapidement que ne l'auraient cru ceux qui avaient gardé confiance dans les arcanes du progrès et du vivre ensemble. Pas de quoi convertir Michel au lendemain qui chante, et l'on ne s'étonne pas, donc de la radicalisation des constats, et comment du sens combat, le sens du combat, pardon, le titre de son premier recueil de poésie de 96, le poète est passé à Combat toujours perdant, titre de son dernier recueil, celui qui fournit donc ses textes à l'album de musique Souvenez-vous de l'homme. Occidentaux qui voulez vivre, vous êtes en fin de partie, ainsi nous exhorte le poète, qui ne cesse dans un recueil comme dans l'album d'évoquer le spectre des guerres diverses, extérieures Il dit que vers l'Est, le conflit se propage, ou intérieur, il faut au moins être deux pour faire une guerre civile. Mais aussi des invasions barbares sur fond d'émissions générales, qui relaient finalement le dialogue des machines. En somme, récapitulant les menaces et les mots, Houellebecq confirme le diagnostic de mort imminente, mais ce qui pourrait être une forme excessive de son désespoir romanesque devient autre chose au sein de sa poésie composite. Alors avec ses vers approximatifs, désuets, Houellebecq fabrique une poésie ironique, mais jamais cynique, capable de soudaines emphases et d'eschatologie. Son ton clinique, trivial ou mystique convient parfaitement à sa scansion proche et ce qui sourd de l'ensemble opérant, un changement de degré par rapport au roman, bah c'est une sorte de miséricorde radieuse. La fin est inéluctable, on va tous crever, ça va bientôt arriver, mais ça va bien se passer, nous murmure l'écrivain, nous consolant comme un petit frère baudelairien. La dureté du discours est composée par la douceur d'un lyrisme discret et profond, lequel se trouve magnifiquement amplifié ici par la musique de Frédéric Lau, d'une mélancolie envoûtante et souveraine. Alors, faut dire que Frédéric Lau est un habitué des collaborations prestigieuses. Alors, il a collaboré avec Alain Chamfort, il a collaboré avec Pete Doherty, et moi, je reconnais ma préférence pour sa collaboration avec Daniel Darc. Rappelez-vous le chanteur de Taxi Girl, après des débuts foudroyants, une carrière solo un peu en dents de scie, il a disparu des radars fin 90, et c'est à cette période que le chanteur devient chrétien, une conversion longue et puissante. Et en 2004, il revient avec un chef-d'œuvre, Crève-Cœur, composé justement par Frédéric Lau. Et il sort plusieurs chefs-d'œuvre, comme Je me souviens, je me rappelle, c'était le titre de l'époque, et d'autres moins connus et tout aussi beaux, Et quel crime, ou Un peu c'est tout. Il est même fini par une adaptation du psaume 23, et je me rappelle qu'aux Eurockéennes de Belfort, après une heure et demie de concert très rock, il demandait à la foule de la fermer, sortait sa Bible et citait, déclamait le psaume 23. 4 ans plus tard, les deux récidivent avec Amour suprême. Et ce sont deux albums qui ont littéralement fait pleurer Michel Houellebecq. Donc pas étonnant de les retrouver tous les deux, quelques années plus tard, et le duo de Solitaire livre une combinaison très différente de celle de Burgala, donc l'auteur, le compositeur du premier album, soulignant le tragique plutôt que l'ironique, avec une finesse et une maîtrise exceptionnelles. Ainsi, jouant son rôle de prophète compatissant jusqu'au bout, et avec une maestria de créateur au sommet de son art, soutenu par un complice idéal, Houellebecq, tout en martelant la fin de l'Occident, perpétue pourtant son génie, lucide, glacial, mais grandiose.
Merci beaucoup Arthur de Vatrigan pour cette chronique un peu plus littéraire qui nous fait un petit peu de, qui nous donne un petit peu de culture aussi dans cette matinale. Et tout de suite, on passe au face à face. Mais avant cela, cher Arnaud, vous avez raison de me le rappeler. Eh bien, nous avons besoin de vous, chers auditeurs. C'est extrêmement important.
Vous alliez oublier, Alexandre.
Presque, oui. Je le reconnais.
Effectivement, chers auditeurs, votre soutien financier est primordial pour la survie de Radio Courtoisie. Aussi, merci de nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et puis également d'envoyer vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci. Allez, Alexandre. Voilà, merci beaucoup. Et effectivement, c'est le genre de choses à ne pas oublier. Ça vous prend quelques instants, chers auditeurs, et ça fait toute la différence pour nous. Et tout de suite, donc, on passe au face à face.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face à face.
Et pour ce face-à-face, nous restons donc avec Arthur de Vatrigan, mais nous retrouvons aussi Jean-Michel Verne. Alors, Jean-Michel Verne, on a été sur, effectivement, une discussion assez intéressante qui vous expliquait que la France, finalement, devenait une forme de plaque tournante pour le narcotrafic, en fait, dans le monde entier, notamment grâce à ses larges côtes, mais également, c'est une question qu'on se pose, est-ce que c'est pas aussi parce que la France est en retard sur la lutte contre le narcotrafic? Vous disiez que la Belgique et les Pays-Bas commençaient à prendre des mesures fortes pour lutter contre ce phénomène. Nous, on a l'impression de le découvrir presque depuis 2 ou 3 ans, et on a l'impression qu'il prend une ampleur qu'on n'avait pas exactement soupçonnée non plus.
Oui, mais les vous savez, les policiers marseillais, les policiers sentent tout sur le terrain, et je dirais qu'en 2014-2015, on avait déjà les soubassements de ce qui se passe aujourd'hui. Et les policiers de la PJ avaient notamment développé une méthode qu'ils appelaient la méthode proactive, qui a montré son efficacité, puisqu'il faut savoir qu'on élucide plus de 50% des règlements de compte aujourd'hui, hein, ce qui n'était pas du tout le cas avec le milieu dit traditionnel, où il était très très rare d'élucider une exécution, un contrat. Et là, aujourd'hui, ça continue d'ailleurs à fonctionner. On a beaucoup d'arrestations, d'affaires résolues. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, 2014-2015, il aurait fallu augmenter considérablement les moyens policiers. Il aurait fallu anticiper. Et au lieu de ça, on a malheureusement, pour des raisons de budget, pour des raisons d'économie, et aussi, il faut le dire, parce que les forces de police étaient monopolisées sur le terrorisme islamique, et on a, voilà, ça a permis, je dirais, à cette nécrose de prospérer tranquillement dans les cités marseillaises ou les cités parisiennes ou de la région parisienne et de Lyon et d'ailleurs. Donc le phénomène, c'est, si vous voulez, c'est, il y a eu une sorte d'effet multiplicateur avec donc un déplacement des forces de police et de la justice vers un objectif qui est la lutte contre le terrorisme, et ça a bien marché, il faut le dire, hein. La création du parquet national antiterroriste a montré son efficacité. Et pendant ce temps-là, le trafic s'est développé sur le territoire et dans toute l'Europe. Entre 2020 et 2022, on a une augmentation de 30% de la consommation de cocaïne en Europe. C'est quand même énorme. Mmh. Et donc, vous voyez un peu le problème. Les cartels ont vraiment envoyé des quantités de CAM considérables vers notre territoire et les pays limitrophes. Et donc, on a été complètement dépassé par le phénomène. Et puis, CAM moins cher, hein, donc le prix qui s'effondre, puisqu'on arrive maintenant à 50 euros le gramme. En 89, à Marseille, pour vous donner une petite idée, le gramme est à 230 euros.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est devenu, je ne dirais pas que tout le monde peut se le payer comme ça, mais quand même, ça devient un produit de consommation courante, la cocaïne, avec plus d'un million de personnes, 1 100 000 à peu près, 1 200 000 personnes qui consomment de la cocaïne de façon habituelle sur le territoire. Ça me donne une petite idée. La question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait du consommateur ? Qu'est-ce qu'on fait du consommateur ? Vous saviez, dans les années 70, il y avait French Connection, les stups à Marseille avaient un groupe dédié qui s'occupait des consommateurs, parce que c'était considéré comme un délit de consommer de l'héroïne. Donc aujourd'hui, il faut vraiment repenser le modèle. On est dans une situation extrêmement préoccupante avec l'apparition de, encore une fois, je cite toujours Lofast, qui parle d'un cartel français de la drogue. Quand on emploie le mot cartel, ça de suite résonne dans notre conscience.
Arthur de Vatrigan, à ce sujet, comment est-ce que vous expliquez déjà de votre côté la prise de conscience tardive de ce phénomène ? C'est-à-dire qu'on sait évidemment que le trafic de drogue a toujours été plus ou moins un sujet en France. D'un autre côté, on a l'impression d'un véritable réveil à ce sujet au niveau au moins médiatique depuis 2 ou 3 ans. Et la question de la consommation se pose différemment, puisque aujourd'hui, on parle même de légaliser certaines drogues. Donc, sur ces deux phénomènes, comment est-ce que vous voyez l'évolution du débat public en tant que journaliste ?
La légalisation, c'est un vieux serpent de mer. Ça fait longtemps, des dizaines d'années qu'on en parle pour différentes raisons. C'est vrai que maintenant, la raison, c'est de dire de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose, autant faire ça, comme ça on pourra contrôler et faire un truc propre. C'est comme les salles de shoot à Paris, quoi. Mais ça fait une 20 ans, 30 ans que des gens de gauche majoritairement proposent la légalisation au moins du cannabis. Votre question est excellente, cher Alexandre, parce qu'en effet, il y a eu un réveil, brutal et presque excessif. Alors après, il y a la fainéantise de la presse qui, vous savez, dès qu'il y a un sujet qui est intéressant, Bah, comme on ne travaille pas beaucoup ou qu'on n'est pas assez payé, on se met tous sur le même sujet et tout d'un coup, ça devient un sujet. Et c'est vrai qu'il y a eu, dans les règlements de compte et surtout dans quelques reportages, le fait que les narcotrafiquants ne se cachent pas, affichent sur les murs le prix, les horaires de distribution, les réductions en fonction du gramme ou du nombre de barres achetées. Plus, vous ça, rappelez-vous, ce communiqué, il me semblait bien que c'était la DZ Mafia qui expliquait, qui avait fait un communiqué de presse pour expliquer qu'un type qui avait été tué n'était pas eux et qu'un groupe adverse voulait leur mettre le meurtre sur le dos pour nuire à leur image. Donc, tout d'un coup, les gens sont réveillés, en tout cas, les politiques sont réveillés. Ils étaient au courant de ce qui se passait, mais vous savez, quand on n'a pas les moyens ou quand on ne veut pas, on met sous le tapis. Sauf que là, ça exposait la tronche des gens. Et donc, ils sont réveillés, sauf qu'ils sont réveillés avec un cerveau des années 90 ou 80. Ils n'ont pas vu qu'en fait, le trafic de drogue était passé à la pointe du capitalisme et qu'aujourd'hui, même le paysan de labo, c'est sujet à l'héroïne et qu'aujourd'hui, à Paris ou dans les grandes métropoles, vous n'avez pas besoin d'aller sur un point de deal, vous livrez via Ubersheet ou d'autres plateformes et que vous êtes parrainé et que vous avez des codes de réduction et compagnie. Donc forcément, le réveil était un peu brutal. Mais ce qu'a dit votre invité me fait réagir parce qu'en effet, moi, pendant longtemps, je m'étais dit l'option de taper le consommateur est une option lâche et de facilité, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à la guerre. Et quand on regarde aujourd'hui les moyens qu'ont les narcotrafiquants, que des types de 18 ans ou 20 ans prennent des dispositions testamentaires, c'est-à-dire qu'ils ont entériné déjà que la mort était une option et qu'ils allaient avoir une vie courte et que le but était de palper le plus d'oseille sur une courte durée de vie, qu'ils ont des moyens financiers bien plus importants que n'importe quelle industrie en France, qu'ils ont des armes bien plus lourdes que la police ou la gendarmerie aujourd'hui. Je me dis que finalement, on n'a jamais fait un truc, c'est de taper le consommateur. Et si, d'un point de vue très bêta et simpliste, il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de trafiquant, on est d'accord. Donc il y a deux choses, c'est qu'il y a une raison très profonde, c'est que je rappelle qu'on est le pays qui squatte le podium de la consommation psychotrope légale. Ça veut dire qu'il y a une cause très 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 profonde et que c'est juste aller foutre en garde à vue ou condamner les types qui prennent de la cocaïne ou du shit, ça ne va pas résoudre le problème profond. Néanmoins, on peut bien plus effrayer un consommateur qu'un narcotrafiquant. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on a les moyens les moyens de nombre, les moyens pour faire les procédures et les moyens pour foutre en tôle. Parce que si c'est pour faire une petite garde à vue, c'est à faire flipper deux minutes. Si c'est pour foutre une amende, si on a les moyens d'acheter de la cocaïne, on a peut-être les moyens d'acheter une amende. Donc, tant qu'on ne passera pas par la case prison, ça arrive de faire un peu peur, mais pas très longtemps.
Jean-Michel Vern, est-ce que aujourd'hui l'État a les moyens de lutter justement contre ces mafias? Est-ce que, encore une fois, vous parliez d'organisations internationales, est-ce qu'il y a des organisations interétatiques qui permettraient réellement d'arrêter une chaîne depuis presque le Mexique jusqu'à la France? Et est-ce que finalement l'hypothèse que soumet Arthur de Vatrigan, donc cette idée de taper sur le consommateur et effrayer le consommateur, peut fonctionner, notamment justement dans une optique où la consommation de drogue devient quelque chose de plus en plus banal ces dernières années?
Alors, y a plusieurs avis là-dessus. Il y a des gens qui disent que ça ne servira à rien. De toute façon, celui qui veut se droguer continuera à se droguer, se fournira sur Uber, même si on contrôle les plans de drogue de façon plus stricte. C'est le tonneau des Danaïdes. Moi, j'ai plutôt tendance quand même à penser que la sanction, ça a son efficacité. On a vu des mesures assez surprenantes, parce que avec la loi narcotrafique, le préfet a désormais des pouvoirs beaucoup plus étendus. Et on a vu par exemple le fait de confisquer les véhicules des gens qui viennent s'approvisionner en drogue, pourquoi pas. Ça, ce sont des mesures qui peuvent avoir une certaine efficacité. Et quand on voit que, en fait, tout le monde, quand je dis tout le monde, ça veut dire que tout le monde ne se drogue pas, mais on a toutes les couches de la société qui aujourd'hui consomment notamment de la cocaïne. Ça part de l'aide-soignante de la clinique du coin, au chauffeur-livreur, en passant par l'avocat, le médecin. Enfin, je veux dire, c'est. C'est la bonne société française.
J'ai envie de dire pour nous trois, même en passant par le journaliste aussi, d'une certaine façon, voilà. Où là On a tous entendu des bruits, mais dans le fond, c'est vrai qu'on a l'impression.
Mais, mais je vous dis, c'est même pas une surprise, quoi. Il y a une sorte de banalisation. C'est devenu, je vous dis, encore une fois, un produit de consommation courante. Et ce qui se passe aujourd'hui a été programmé par des gens qui ont une vision, qui ont anticipé la situation il y a une quinzaine d'années. Il y a un policier qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction d'Inside des Mafias qui m'a expliqué qu'il avait rencontré il y a 15 ans un trafiquant international de très haut niveau qui lui avait dit « Écoute, on sait que vous allez un jour ou l'autre légaliser le trafic de cannabis, et ben nous on va vous envahir de cocaïne et on va faire baisser les prix ». C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc ces gens-là ont une intelligence et une faculté à se projeter dans l'avenir, une sorte d'intelligence prospective qui fait qu'on est forcément à la remorque. Il y a une sorte de course à l'échalote. Les polices, justice, on est toujours en train de courir derrière des gens qui ont un temps d'avance. Et maintenant, le nouveau défi, c'est les drogues de synthèse, par exemple. Et ça, on n'a pas du tout, encore une fois, anticipé. On ne sait pas du tout ce qui va se passer en France. Parce que si on se met à consommer cette saleté, comme on le fait aux États-Unis, on voit les zombies qui se baladent dans les rues de New York ou de Los Angeles,
On recevait justement il y a deux semaines, il me semble d'ailleurs, Jonathan Alperi, donc journaliste de terrain, qui avait enquêté sur tout le trafic de drogue qui passait dans toute l'Amérique du Sud et qui est remonté jusqu'aux États-Unis. Il y avait des images dans son nouvel ouvrage très marquantes justement de ce à quoi ressemblait le trafic, les conséquences de ces drogues dures aux États-Unis. Je vous invite à regarder cet entretien sur la chaîne YouTube de Ligne Droite, chers auditeurs. Arthur de Vatrigan, justement, sur cette question de la consommation, qui est quand même évidemment... c'est-à-dire que, d'une certaine façon, on observe que c'est pas parce qu'une drogue devient moins chère, par exemple, j'en sais rien, mais si la dose de crack était à 5 euros, c'est pas pour autant que tous les Français se mettraient à prendre du crack. D'une certaine façon, qu'est-ce qui, selon vous, produit cette... gradation tant en termes de quantité que de violence, de brutalité des drogues qui sont consommées sur le territoire français.
Je me permets d'intervenir et j'ai une obligation professionnelle, malheureusement.
Écoutez, de toute façon, on arrivait à la fin de l'entretien. Alors, donc,
j'écoute Arthur.
Très bien.
Avec attention.
Arthur de Vatrigan.
Une grande question que vous me posez. C'est pas sympa en fin d'émission. Tant que vous aurez. Non, mais la drogue, ça remplit le vide intérieur. Voilà, comme tout, en fait. C'est toujours le même problème. On a commencé avec la modernité chez Habermas, on arrive avec la drogue. Vous ne prenez pas de la drogue par plaisir, vous prenez de la drogue pour pallier quelque chose. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, vous goûtez à un champi et vous essayez la cocaïne parce que vous êtes dans une soirée et qu'on vous dit que c'est drôle ou parce que vous voulez transgresser ou parce que c'est fun. Ou parce que vous êtes surchargé de boulot et que pour tenir, il faut quelque chose de très fort. Mais c'est parce que vous avez quand même, à la base, à l'origine, un grand manque. Encore une fois, je vous dis, le consommation de drogue légale explose en France. Donc, il y a les causes profondes, ça va être très long à traiter, et les causes directes qu'on peut traiter. Mais c'est vrai, quand je vous écoute, je me dis, j'ai l'impression d'être avec les organisateurs du Tour de France, ou en tout cas les agents et les équipes dopées. C'est-à-dire que quand on découvre quelque chose, en fait, les mecs, ils ont déjà pensé à ce qui allait se passer dans 10 ans. Et c'est effrayant. Et moi, j'ai discuté avec un directeur de prison qui m'a expliqué, en fait, aujourd'hui, dans la presse, j'entends que les types découvrent que les organisations criminelles commencent à acheter des matons. Il me dit, mais ça, c'était il y a 20 ans. Maintenant, en fait, ils envoient des gens de l'organisation postuler pour être maton. C'est-à-dire qu'on a, comme disait votre invité, on a 20 ans de retard à chaque fois. Et on est en train de bosser sur un truc qui est déjà périmé. Alors, l'avantage, c'est qu'on se dit, il y a des industries, des entrepreneuriats et des créations qui fonctionnent en France. Parce que l'industrie on dit, la France était un pays rabougri. Regardez, a franchi des règles. L'industrie de la drogue, c'est exceptionnel. On n'a jamais eu autant de types inventifs, créatifs, prêts à tout. Des milliards qui sont dépensés, on exporte partout, on illumine le monde, c'est merveilleux, quoi. Non, mais c'est effrayant, et d'autant je me dis que je ne sais pas quel pays a réussi à lutter contre le trafic de drogue, en fait.
Eh ben écoutez, c'est peut-être le sujet d'un prochain entretien qu'on réalisera pour essayer de parler un petit peu des solutions par-delà le constat. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan, merci beaucoup Jean-Michel Verne. Je rappelle Jean-Michel Verne que vous êtes l'auteur d'Inside DZ Mafia au cœur du gang narco-mafieux. Merci d'avoir été avec nous ce matin et puis on vous dit à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Dans quelques minutes, nous recevrons Philippe Poirier qui nous parlera eh bien, des élections municipales et de ce que peut espérer le Rassemblement National. Juste avant, ce sera la chronique d'Alice Cordier. Et juste avant cela, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Richard Decez.
Les Iraniens ont décidé de miner le détroit d'Ormuz et d'attaquer les navires qui le traversent sans son autorisation, ce qui est en train de bouleverser le commerce international et les cours du pétrole. La guerre israélo-américaine change de visage. Gérard Larcher a savonné à deux reprises la planche de Bruno Retailleau, d'abord en expliquant que les LR qui soutiendraient au municipal les listes URN, UDR, Reconquête ou d'Union des droites devaient être exclus, d'autre part en suggérant qu'il faut organiser une primaire du centre et de la droite républicaine pour les présidentielles de 2027, quitte à avoir Gabriel Attal comme candidat. Et enfin, c'est une nouvelle affaire de pédophilie dans les écoles parisiennes, ce coup-ci avec un homme travaillant à l'école volontaire dans le 15e. Immédiatement suspendu par l'école, il est pour le moment laissé tranquille par la justice qui prend son temps comme dans toutes ses affaires. Et nous fêtons aujourd'hui plusieurs saints, Sainte Justine, Sainte Fina, Saint Maximilien et Saint Paul de Léon.
Merci Richard.
Ligne droite.
Et pour cette chronique hebdomadaire, nous avons le plaisir de recevoir Alice Cordier. Bonjour Alice.
Bonjour Alexandre.
Alors, on vous reçoit, mais en fait, on devrait vous inviter trois fois par semaine, tellement il se passe de choses autour de Némésis. Pour le meilleur et malheureusement aussi un petit peu pour le pire, il faut dire, parce que c'est pas très rigolo ce qui arrive tout le temps. Alors, déjà, il faut parler d'un sujet, c'est votre manifestation du 8 mars, où d'ailleurs j'étais présent pour Ligne Droite, où vous avez quand même réalisé une jolie manifestation avec quand même un certain nombre de personnes, des personnalités comme Marion Maréchal, Thierry Mariani, alors certes à l'autre bout de Paris, pas à la place de la République, mais racontez-nous un petit peu.
Oui, du coup, nous, on avait comme volonté d'être là le 8 mars pour représenter les victimes qu'on a l'habitude d'accompagner, mais également pour rendre hommage aujourd'hui aux femmes victimes, notamment du terrorisme de gauche, hein, puisque aujourd'hui on ne compte plus le nombre de femmes victimes de violences de la part de la gauche. Donc c'était une manifestation. Nous n'avons pas eu le droit de manifester avec les autres manifestantes du 8 mars sur décision de Laurent Nunez. En fait, en vérité, on avait déjà déclaré nous-mêmes que nous préférions pour cette fois-ci être un petit peu plus loin au vu des récents événements avec Quentin. On se sentait pas de retourner au cœur du réacteur. C'est une manifestation qui s'est hyper bien passée du coup, vu qu'on n'avait pas de personnes d'extrême gauche à venir. On a des journalistes d'extrême gauche qui sont venus et qui ont été bien embarrassés de montrer qu'il y avait des victimes qui sont venues témoigner, qui sont venues témoigner de la prise en charge d'elles auprès de l'association et du fait qu'on avait redonné d'une certaine façon goût à la vie pour certaines. Alors pour eux, ça a été un peu embarrassant de l'expliquer que malheureusement, bah oui, en fait, Némésis est peut-être une association féministe finalement.
Mmh, oui, et puis en fait, j'ai envie de dire que dans cette manifestation, tout s'est absolument bien passé, il n'y a eu aucun problème, aucune
violence. Non,
aucune
là où on voit que les images, là encore, de la manifestation qui avait lieu du côté de Stalingrad a donné lieu à des violences, puisque comme je le rappelle, ce n'est pas des manifestations féministes là-bas, c'est une manifestation d'extrême gauche avec des nervis, avec des ce qu'on va appeler des black blocs, hein, qu'on retrouve sur certaines autres manifestations qui sont là pour faire le bazar, pour taper du flic s'ils le peuvent, et on l'a vu, ils s'en sont pris à d'autres associations, à l'association de Claire Gironimi qui a dû être exfiltrée à une manifestation contre les violences faites aux femmes, ou encore à l'association Nous Vivrons, tout simplement parce que elles sont considérées comme sionistes. Mais d'ailleurs, le thème de la manifestation à Stalingrad n'était absolument pas le féminisme, mais la lutte contre les différentes formes de racisme, de sionisme, etc. Enfin, on se demande où sont les femmes là-dedans.
Et alors, il y a une autre polémique, j'ai envie de dire, qui vous frappe, Alice Cordier, c'est que depuis hier, si je ne m'abuse, vous êtes accusée de faire des signes avec vos doigts, des signes nazis. Alors expliquez-nous un petit peu, parce que j'ai pas tout à fait compris.
Merci de me permettre de rebondir là-dessus. On a en effet des journalistes, des pseudo-journalistes de Twitter, hein, puisque c'est pas des gens professionnels, qui ont sorti une photo de moi datant d'il y a 4 ans où je suis dans un bar et un jeune homme me fait faire un geste Terroriste, qui en fait appartient à un groupe de rap. Nos chers investigateurs Twitter ont considéré que c'était un salut nazi plus ou moins inversé. Enfin, j'ai pas bien tout compris. Malheureusement, ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que ce groupe de rap existe vraiment, qu'on retrouve des jeunes hommes, parfois d'ailleurs d'origine africaine, hein, ce qui pourrait questionner sur leur rapport, je sais pas, au nazisme, en train de faire ces mêmes gestes-là, ou encore une joueuse du Toulouse FC féminin qui, là encore, fait ce genre de geste. Voilà, c'était ni plus ni moins qu'un geste un peu ridicule, je l'avoue. Mon seul crime aura été d'accepter de faire ça ce jour-là.
Bah, décidément, vous n'avez pas de chance. Mais alors, le problème, c'est qu'il y a quand même une grosse partie de LFI, et même des journalistes d'extrême gauche, qui disent que c'est une bonne raison pour vous dissoudre.
Non, mais tout à fait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la France Insoumise est dans une logique de faire oublier ce qu'elle a fait, à savoir embaucher des hommes qui ont tué Quentin. Donc, ils essayent de trouver une cible. On est la cible de la France Insoumise depuis maintenant un mois. Et ce qu'on subit, honnêtement, Alexandre, est de l'acharnement de leur part, entre les différentes appels à nous dissoudre, les articles 40 qui sont saisis pour tout et rien, pour un geste dans un bar, on est littéralement harcelé de leur part, sans oublier le fait qu'ils mettent littéralement une cible dans le dos quand on sait ce que leurs militants sont capables de faire. On a des militantes qui sont obligées de déménager là depuis quelques temps, qui se font taguer devant chez elles. Enfin bref, on est face à un véritable terrorisme physique, parce qu'il y a l'affaire Quentin de la part de l'extrême gauche, mais aussi un terrorisme intellectuel de la part de la France Insoumise qui s'en prend à nous, au point que tout le monde oublie que qui a vraiment tué Quentin, c'est absolument pas Némésis, c'est la Jeune Garde, le groupe de sécurité de la France Insoumise.
Bah écoutez, on vous souhaite bonne chance à Discordier, parce qu'on voit que vous en prenez quand même vraiment beaucoup, beaucoup sur le dos ces derniers temps, vous et les autres filles de Némésis. Donc on vous souhaite bon courage quand même pour les semaines à venir. Et puis de toute façon, on vous retrouve jeudi prochain, et ou peut-être que vous pourrez commenter l'actualité de manière un petit peu plus détendu, on va dire, que tout ça.
On espère, parce qu'on commence un peu à fatiguer.
Voilà, mais reposez-vous bien,
merci
Alice.
Beaucoup,
merci beaucoup.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce nouvel entretien, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Poirier. Philippe Poirier, bonjour, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes politologue et professeur de sciences politiques à l'Université du Luxembourg. Alors, la raison pour laquelle on a voulu vous recevoir aujourd'hui, c'est que vous avez écrit un article tout à fait passionnant de la nouvelle revue politique, article dans lequel, en fait, vous essayez d'analyser ces élections municipales pour le Rassemblement national. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente ? Alors, ce que vous écrivez dans cet article, c'est notamment que le RN pourrait réaliser un score inédit lors de ces municipales, mais qu'en fait, le parti revient d'assez loin. C'est-à-dire que c'est un parti qui a été d'abord assez fort au niveau municipal, puis qui a vraiment reflué et qui redevient un parti, on va dire, municipal d'ampleur nationale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ces trois phases ?
Il y a donc trois cycles historiques pour le Front National, puis le Rassemblement National. Le premier cycle, c'est la période des années 80 jusqu'à 1995, c'est-à-dire c'est un cycle de médiatisation avec quelques points d'appui dans des zones, principalement d'ailleurs, soit en région parisienne et dans le sud-est, avec l'élection partielle historique de 1983 à Dreux, qui avait vu pour la première fois et l'unique fois d'une certaine manière une union des droites assumée dans la gestion municipale. Mais cette période est une période d'instabilité et de très peu de présence dans les conseils municipaux, parce que les notables du RPR et de l'UDF de l'époque n'ont pas besoin, dans la conquête ou dans la conservation de leur municipalité, d'avoir un appui de l'électorat de la droite nationale et principalement du Front National. La deuxième phase, c'est la phase de 1995, puisque à l'époque, le Front National, dirigé par Jean-Marie Le Pen, et le numéro 2, Bruno Maigret, ont une stratégie de parti de cadre, c'est-à-dire d'avoir un maximum d'élus dans les conseils départementaux, dans les conseils municipaux et dans les conseils régionaux. Donc, une professionnalisation des cadres, et qui s'avère payante, puisque en 1995, le Front National de l'époque remporte la ville symbolique de Toulon, mais aussi d'autres communes, et principalement cette fois-ci et uniquement dans le sud-est. Mais il a plus de 1500 conseillers municipaux. Suite à la dissidence et aux problèmes internes du Front National et la création du mouvement national républicain, il y a une nouvelle phase et une phase de reflux et même d'isolement, puisque dans les élections suivantes, le Front National de l'époque a très peu d'élus, est très isolé dans les municipalités, et ce n'est qu'à partir de 2014, donc lorsque Marine Le Pen reprend la stratégie des cadres d'implantation du parti, qu'il y a une nouvelle dynamique. Et dès les élections de 2014, eh bien, le Rassemblement national retrouve à peu près 1500 élus municipaux à travers toute la France. Depuis lors, c'est cet objectif-là. Plus que la conquête de villes, bien entendu, c'est un objectif, c'est diversifier, s'implanter territorialement sur toute la France avec des élus municipaux dans toutes les communes qui ont au moins plus de 25 000 habitants. Et c'est là l'enjeu de l'élection du dimanche prochain. Est-ce que le Rassemblement national, avec son système d'alliance, notamment désormais avec l'UDR ou d'autres mouvements, va réussir autour de des 600 listes à peu près, un peu plus, qu'il présente, seul ou en alliance, à avoir cette présence dans les 600 villes de plus de 25 000 habitants.
Alors, ce que vous décrivez aussi dans votre article, c'est que, d'une certaine façon, le fait que le Rassemblement national n'ait jamais été un parti qui a trouvé une très grande réussite aux élections municipales, c'est aussi lié à des raisons institutionnelles. Est-ce que vous pourriez un petit peu les décrire pour nos auditeurs ?
Eh bien, les différentes réformes de lois sur la décentralisation depuis 1982, les fameuses lois des fers, puis les réformes des lois électorales, notamment en 2013 et la dernière en 2025, qui modifie le scrutin, l'organisation du scrutin, fait que les partis qui détiennent les municipalités, que ce soit les partis hérités du RPR-UDF ou de l'UMP, les Républicains, ou les partis à gauche, partis socialistes et partis communistes, voire verts dans certaines communes, sont privilégiés d'une certaine manière par ce système institutionnel. D'autant plus que désormais, notamment dans les villes moyennes et grandes villes, nous avons non seulement l'élection du conseil municipal, mais l'élection communautaire. Et donc, dans les communautés de communes ou dans les métropoles, les conseils métropolitains ou communautaires, il faut passer des alliances structurelles et institutionnelles au-delà de son propre camp. Et donc, le centre droit et le centre gauche ont intérêt et ont plus de possibilités jusqu'alors de détenir ce nouveau échelon, j'allais dire, municipal, territorial, communautaire. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a un autre aspect de cette analyse néo-institutionnaliste, comme on dit en sciences politiques, c'est ce qu'on appelle les partis cartels. C'est-à-dire que les partis qui détiennent les municipalités peuvent utiliser des ressources importantes pour se constituer des sortes de clientèle politique, des clientèles électorales, soit au niveau de la commune, soit au niveau justement des nouvelles autorités communautaires. Et donc, même si vous êtes des électeurs ou des électrices plutôt proches du Rassemblement national, ou même si c'était plus à gauche de la France insoumise, eh bien, vous pouvez tenter de rester, du moins pour le niveau local, dans cette forme de baronnie, clientélisme, parti cartel. Et c'est au désavantage de toujours les nouveaux venus.
De manière générale, Philippe Poirier, c'est l'impression, c'est un petit peu ce qu'on observe, notamment pour les Républicains ou pour le Parti Socialiste, qui en fait a deux de totalise théoriquement que 6 ou 7% à l'élection présidentielle, mais qui finalement, même au niveau des députés, comme au niveau des élus locaux, finalement parviennent à se maintenir des baronnies, comme on les appelle. Et alors, justement, j'ai une question un petit peu que vous étiez en train d'aborder, mais que je voudrais vous poser, c'est est-ce que la France insoumise pourrait subir, finalement, par sa nouvelle ostracisation, par le fait qu'elle fasse désormais plus peur aux Français que le Rassemblement National, est-ce qu'elle pourrait subir les mêmes conséquences que celles que subit le RN depuis plusieurs décennies, justement, dans ses tentatives de conquête locale?
Alors, il faut être plus prudent avec la France insoumise, parce que si elle est isolée, très isolée, comme le montrent les dernières enquêtes d'opinion parmi les Français, puisque presque 80% des Français rejettent la France insoumise désormais, il n'en demeure pas moins que les dirigeants du Parti socialiste ou de centre-gauche ou des écologistes sont moins réticents pour mener continuer des alliances ou des fusions de listes au deuxième tour. Donc, nous verrons bien dimanche soir. Il est vrai qu'au premier tour, la France insoumise présente beaucoup de listes seules, en concurrence parfois dans les villes de plus de 25 000 habitants, face à des listes de centre-gauche ou de divers-gauche. Mais déjà, beaucoup de maires divers-gauche et de centre-gauche ont déjà prévu, si ce n'est des fusions, si ce n'est des accords, et avec des retours d'ascenseur à d'autres types de scrutins. Et vous avez remarqué que la stratégie du Parti socialiste a été, paradoxalement, pour cacher un petit peu cette stratégie, d'accuser les Républicains, c'était hier ou avant-hier, son responsable des élections, que les Républicains préparaient une très grande alliance avec le Rassemblement National, avec Reconquête et avec l'UDR. Alors, il y a une chose que je voudrais quand même ajouter pour vos auditeurs. Il y a aussi une plus grande facilité aujourd'hui quand même le Rassemblement National est beaucoup moins isolé qu'autrefois. Pourquoi ? Parce que depuis 2014, il y a un autre phénomène aussi pour les droites. C'est qu'il y a de plus en plus de listes divers droites. Elles dominent en termes de présentation. Et donc, les partis nationaux, les Républicains, au centre, l'UDI, ou tout ce qui se rapproche au centre, contrôlent beaucoup moins leurs élus locaux ou leurs barons locaux. Et donc, ce sera un phénomène à suivre. La plus grande diversité dans la composition des listes divers droites peut aussi permettre, peut-être pas forcément bon nombre de fusions, mais au moins des relations beaucoup plus locales assumées. Et puis, les barons locaux savent très bien que dans certains départements, par exemple dans le Var, dans les Pyrénées-Orientales, dans le Vaucluse, ou dans les Alpes-Maritimes, ou même dans un département comme la Moselle, où la majorité des députés, sinon la totalité des députés, sont Rassemblement National ou UDR, ils doivent faire très attention au niveau local pour d'autres scrutins. Et vous le savez bien, et les auditeurs le savent bien, que la majorité des élus que remportera le Rassemblement National et ses alliés seront aussi utiles pour deux choses. Pour les sénatoriales à venir, le Rassemblement National dispose de 3 sénateurs, si ma mémoire est bonne. Il faut 10 sénateurs pour former un groupe parlementaire. Donc, dans un parti si fort nationalement, il est quand même nécessaire au minimum d'avoir un groupe même constitué d'apparentés au Sénat. Donc, c'est un enjeu important. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que le Rassemblement National et son prédécesseur, le Front National, ont eu toujours de la difficulté pour la signature des fameuses 500 signatures pour l'élection présidentielle. Donc maintenant, avec des fortes présences dans les assemblées, dans les conseils municipaux suite à ces élections, le parti sera dégagé de cette épée de Damoclès, si on peut dire, et même ce sera intéressant pour ce parti d'avoir des relais pour la campagne présidentielle à venir. C'est d'ailleurs pourquoi aussi la France insoumise a voulu présenter beaucoup de listes seules, parce qu'elle a la même stratégie d'avoir des élus locaux beaucoup plus nombreux pour être plus indépendant dans le système des signatures vis-à-vis des élus de centre-gauche.
Oui, d'autant que on peut le rappeler, hein, mais aussi si les autres chefs de parti à gauche sont d'accord pour réaliser éventuellement des alliances en vue des élections municipales. C'est certainement pas le cas lors des élections présidentielles où effectivement personne finalement dans ces partis de gauche n'a envie que Jean-Luc Mélenchon soit candidat. Simplement, je reviens un instant sur ce blocage institutionnel qui défavorise encore le Rassemblement National. Question toute simple, mais on sait que par exemple en France, il y a eu des redécoupages de circonscriptions qui ont été conçus spécialement par exemple pour favoriser la gauche, notamment en incluant des centres urbains dans des circonscriptions qui étaient autrefois très rurales. Est-ce que selon vous, les blocages institutionnels qui avaient été mis en place sur ces dernières décennies l'ont été aussi pour empêcher la montée des partis, marginaux, donc le Rassemblement National ou même la France Insoumise? Est-ce que selon vous, c'était volontaire?
Chaque gouvernement, et on sait bien depuis même la 4e République, les plus anciens d'entre nous qui ont de la mémoire historique se souviendront des apparentements dans les années 50 qui étaient là pour empêcher à l'époque le mouvement gaulliste d'avoir un grand nombre d'élus. Mmh. Donc chaque gouvernement a tendance à redécouper pour essayer. Mais cela peut empêcher, ça peut freiner. Mais lorsqu'il y a une transformation des valeurs individuelles et collectives comme on assiste en France ou dans d'autres démocraties européennes, eh bien, à un moment donné, ces systèmes ou redécoupages électoraux ne sont que de pis-aller provisoires, en fin de compte. Et vous le voyez bien, en 2022, lorsque pour la première fois, le Rassemblement national a réussi aux les élections législatives dans un système à deux tours de passer ce cap, ce n'était plus que moins de 10 députés, c'était tout d'un coup 80 députés en 2022 et en 2024. Donc, parce que cela correspond à l'état sociologique du corps électoral.
Alors, mais justement, pardonnez-moi, Philippe Poirier, de vous interrompre, mais c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que le Rassemblement national, finalement, ces dernières décennies, a remplacé le communisme municipal, ou est-ce qu'au contraire, il est en voie de remplacer la droite municipale, que ce soit sur le plan sociologique ou que ce soit sur le plan des valeurs?
Alors, cela dépend des régions, en fin de compte. Parce que les électorats du Rassemblement national et les valeurs qui les animent ne sont pas forcément les mêmes suivant les régions françaises et donc les villes aussi. Cela dépend aussi de la force et de la pérennité du système historique de notabilisation politique que possède encore le centre droit ou droite. Dans certaines régions, il est complètement par terre. Dans d'autres, il est encore très, très solide. Cela dépend aussi du taux de participation. Plus le taux de participation sera élevé dimanche prochain et 8 jours par la suite, plus cela servira le Rassemblement national. Plus le taux de participation est faible, comme on l'a vu aux élections du Covid en 2020, où il était de moins de 45%, les premières victimes de ce faible taux de participation, ce furent les listes du Rassemblement national et d'une partie même de la droite. Donc ça, c'est très important. Alors, qu'il remplace le communisme municipal ou la droite municipale, non, c'est autre chose. Parce que, d'abord, les communes n'ont pas les mêmes pouvoirs, il y a l'intercommunalité qui est très importante dans certaines... Et en même temps, vous voyez bien qu'en revanche, que dès que le Rassemblement national conquiert une ville, par exemple, des villes comme Fréjus, comme Perpignan, comme Hayens, comme Villers-Cotterêts, comme Hénin-Beaumont, eh bien, il les conserve très facilement. Parce que, comme tout mouvement politique, il y a un phénomène de notabilisation. Sans être utiliser un terme péjoratif, le boss des Pyrénées-Orientales, le boss municipal, c'est Louis Alliot. Et du laboratoire de Perpignan, ça a servi à sortir les 4 députés des Pyrénées-Orientales, qui, si ma mémoire est bonne, sont toutes des femmes, et ces 4 députés des Pyrénées-Orientales vont aussi alimenter les élections municipales à venir.
Ils vont même recruter, vont même recruter des assistants parlementaires.
Il y a beaucoup. C'est une tradition dans la droite nationale d'investir beaucoup de jeunes candidats parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait dispose des mêmes ressources. Mais il est vrai qu'à cette élection, j'ai regardé, les têtes de liste sont parmi les plus jeunes de France, et les deux têtes de liste dans les villes de plus de 10 000 habitants et plus sont toutes du Rassemblement national. Mmh. Et la plus jeune candidate, si ma mémoire est bonne, est dans la ville bretonne de Lannion, où elle vient d'avoir 18 ans. Ah, elle est étudiante. Donc voilà, vous voyez un petit peu la chose. Mais le phénomène de notabilisation s'opère aussi pour le Rassemblement national, moins vite que les autres mouvements, mais il s'opère. Mmh. Et je répète, l'enjeu pour ce mouvement n'est pas de gagner énormément de villes, parce que une métropole, alors, parce que c'est trop difficile, mais c'est d'avoir un maximum de conseillers municipaux.
Voilà, alors justement, c'est ma question, Philippe Poirier, celle que j'avais notée, vous me faites une merveilleuse passerelle. Ce serait quoi une victoire, concrètement, pour le Rassemblement national durant cette élection, ces élections municipales? À quoi ça ressemblerait une victoire?
La victoire, ça serait de dépasser déjà le minimum des 1500 conseillers municipaux élus au second tour et une petite centaine de conseillers communautaires. Ça, c'est la victoire minimale, si on peut dire. On peut s'attendre, si on croit et on pense aux enquêtes d'opinion qui sont menées, que le Rassemblement national sera plus proche et ses alliés de 2000 conseillers municipaux. Donc, ça serait important. La victoire serait encore plus marquante s'il remportait entre 10 à 15 villes de plus de 25 000 habitants. Mmh. Et ça, c'est un enjeu plus difficile et cela dépendra d'une part du taux de participation au premier tour et au deuxième tour. Je répète, plus il sera élevé, plus ce sera bénéfique, notamment dans les villes où il est fort. Et puis, cela dépendra aussi du rapport général gauche-droite à 11 mois des élections présidentielles. Si des notables de centre-droit et de droite voient que dans certaines régions, ils auront besoin de se maintenir, notamment pour les sénatoriales, alors ça pourra faciliter cette victoire de 10 à 15 villes de plus de 25 000 habitants. Et puis, bien entendu, il serait curieux que le Rassemblement national perde l'une de ces villes. S'il perdait la moitié de ses villes d'un côté, qu'il ne gagnerait que 3-4 villes, ce ne serait pas un bon résultat. Mais l'enjeu pour le parti, c'est de devenir ce qu'on appelait en sciences politiques avec Maurice Duverger, un parti de cadre. Mmh. Il faut que le parti continue sa professionnalisation, sa territorialisation. Et ce que vous disiez auparavant, il a investi beaucoup de collaborateurs parlementaires, des élus régionaux déjà, des jeunes députés. On voit bien que c'est la professionnalisation parce qu'elle est nécessaire, puisque c'est quand même un parti et l'ensemble de la droite nationale qui représente dans les intentions de vote national entre 36% minimum et 41 à 42%. Donc, il est obligé d'avoir cette stratégie-là et donc d'espérer d'avoir un bon résultat. Ce serait donc 10-15 villes en plus des 2000.
Il nous reste 2 minutes, Philippe Poirier. Question aussi qui est liée à cette question de la victoire. On a l'impression qu'il faudrait aussi au Rassemblement national une grande ville. Et dans ces grandes villes, il y aura évidemment la question de la reconquête donc de Toulon. Il y a également Nice et Marseille. Est-ce que, selon les forces en présence, le Rassemblement national peut emporter une, deux ou trois de ces villes?
Il pourrait en remporter 2 sur 3. Il semble à Marseille que c'est beaucoup plus difficile parce que là, les notables de centre droit autour de Madame Vassal ne veulent pas de passer au deuxième tour malgré que la liste de Monsieur Alizio frôle les 35 ou 36% au premier tour suivant les enquêtes. Par contre, à Nice, c'est intéressant parce que c'est un retour classique de Nice. Avant Monsieur Estrosi, nous avions Jacques Perrin qui était maire de Nice, qui lui-même avait été issu du Front National, du CNI, et qui avait eu une aventure indépendante et qui avait fait de fait l'union des droites avant l'heure. Et à Toulon, Laure Lavalette est quand même très bien placée et elle est surtout entourée de forts appuis, non seulement de certains notables de centre-droit, mais aussi de la force de tous les députés RN du Var. Et ce qui sera aussi intéressant à Toulon de regarder, ce sont toutes les communes qui font partie de la métropole toulonnaise, parce que là, ce serait peut-être le double gain, c'est-à-dire non seulement la ville de Toulon, pour aussi laver un peu le passage historique de 95 qui ne s'était pas très bien passé, et conquérir la métropole. Mais donc là, il y a deux grandes possibilités à Toulon et à Nice. Et puis, il faudra regarder aussi quelques villes moyennes à travers toute la France, notamment dans le sud-ouest, hein, des villes comme Carcassonne, par exemple, des villes en Moselle comme Forbach ou Sarreguemines, ou quelques points dans d'autres parties de la France, y compris dans un département comme la Sarthe.
Et ben on regardera tout ça avec beaucoup d'attention, Philippe Fourier. Peut-être qu'on vous réinvitera la semaine prochaine pour analyser déjà les résultats du premier tour, ou alors la semaine d'après pour ceux du deuxième. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir livré cette analyse. Et puis, on vous dit à bientôt.